Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio.
Silence. Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable François-David Bernier est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Donc aujourd'hui, pour vous, je vais vous faire mon suivi de ma couverture du procès de Gilbert Rozon en début d'émission et la revue de l'actualité judiciaire qui était assez garnie cette semaine. Ensuite, Matt Sharon Otis est avec nous. Elle va nous parler d'un sujet qui pourrait être épineux. On a vu les règles sanitaires durant Noël. Il y a 4 jours, il y a une fenêtre de 4 jours. Elle va nous expliquer la problématique qu'on peut s'attendre en lien avec les gardes partagées. Ensuite, l'opposition qui vient nous parler, Mme Mettier, à Longueuil, de l'abattage ou de l'euthanasie des cerfs. On a entendu parler cette semaine, appelez ça comme vous voulez, mais il semblerait qu'il y ait un problème avec tout ça. Elle nous en parle. Ensuite, pour finir, Maître Frédéric Bérard, et non le moindre, qui finit l'émission en nous parlant de la loi 101. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un réel problème avec le français au Québec? Restez là, votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On débute l'émission avec une revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Cette semaine, moi, j'étais au procès de Gilbert Rozon. Gilbert Rozon, ce qui se passait, c'est que les plaidoiries de la couronne n'avaient pas été faites parce que beaucoup de gens pensaient que c'était terminé. Et non, on avait entendu les plaidoiries de la défense, des plaidoiries très flamboyantes avec Maître Poupard, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien, c'est sûr, quand on est dans le domaine juridique, quand on voit ce genre de plaideur-là, ça nous impressionne un peu, avec la voix percutante des éléments qui avaient fait en début de procès il avait rappelé au juge la présomption d'innocence, comment c'est important. Elle disait que la présomption d'innocence est un phare dans la nuit et que ça nous protège contre le mécréant, si on peut dire. Donc, je le dis souvent, c'est des principes qu'on oublie en 2020. Mais qui ont été, ça a été difficile pour des gens d'avoir ce genre de droit-là, parce qu'ici, on ne se rend pas compte, quand on est accusé à tort, le mal que ça peut faire. C'est pour ça qu'on a un système assez rigoureux. Et parenthèse, c'est sûr, regarde, on peut avoir des opinions. Je comprends que Gilbert Rozon, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans les médias, qui ne sont pas nécessairement criminelles, des comportements reprochés. Mais c'est sûr que de voir au palais de justice des manifestations le concernant, disant que qu'il y aurait. C'est comme si on le jugeait avant le temps. J'aime pas trop ça. C'est un groupe, là, le nom m'échappe, mais ça, je pense que ça finit par Calis, désolé du mot. Mais j'ai plus le nom. Mais il y a encore une fois, on est pour les droits des victimes. Mais il faut attendre de voir l'issue du procès. Et pour revenir au procès, bien là, c'était la couronne qui plaidait. Maître Bruno Ménard, qui est plus discret, qui amène des concepts là, en lien avec. Évidemment, vous vous rappelez, là, c'est qu'il faut, dans ce genre de cas-là, qu'on dit que c'est des versions contradictoires, il faut voir si la version du prévenu, de l'accusé, si elle est crédible. Et là, c'est sûr que lui, il revenait sur ce qui avait été dit, disant que ce n'est pas crédible. Il disait pas le mot crédible ou invraisemblable. Il disait que c'est une version qui doit être carrément écartée parce qu'elle n'a pas de sens. C'est sûr que certains diront, c'est comme un argument facile, bon, faut pas le croire, je trouve que ça n'a pas de sens. À suivre, ça va convaincre la juge, mais on revient sur des choses qu'il a dites, je travaillais à l'époque où ce serait arrivé, c'était pas cette telle date parce que je travaillais trop, j'étais dans les études, j'avais un gros projet, j'étais sur avec un projet là, j'oublie la grande marche, quelque chose comme ça, qui faisait qu'il sortait pas du site. Bon. Ça, j'avoue que c'est un bon élément pour la couronne. Ensuite, par contre, là, on allait à dire il y a des décisions importantes fortes dans ce domaine-là. On appelle ça la décision WD. Tout le monde en parle quand c'est en matière d'agression sexuelle. Et là, la couronne revenait à dire que ces concepts-là, parce qu'il y a comme trois étapes. Il y a la première étape parce que on croit l'accusé. Et là, en vertu des concepts de présomption d'innocence, si on le croit, il faut l'acquitter. Bon. Ensuite de ça, si on le croit pas, mais ce qu'il dit, ça pourrait soulever un doute raisonnable, bien, on devrait l'acquitter également. Mais en dernier lieu, aussi, troisième étape, même si on le croit pas, bien, on regarde est-ce que l'ensemble du dossier avec des témoins, avec le témoignage de la présumée victime, est-ce que on va penser que l'accusé est responsable, a commis le crime hors de tout doute raisonnable. Bon, un doute raisonnable, c'est pas un petit doute, c'est quelque chose qu'on dit, bien, je pourrais pas affirmer qu'il l'a commis, donc des motifs assez importants qui fait qu'on devrait encore l'acquitter. Et là, lui, il remettait ça en cause, mais il disait, bien, le témoignage de la victime, de la présumée victime est tellement crédible pour lui qu'on devrait croire cette version-là. Mais par la suite, il y a ce qu'on appelle la réplique. Et je vais vous dire, la réplique, c'est souvent là que les avocats gagnent des procès parce qu'on ne peut pas refaire la plaidoirie de la défense là, parce que ça a été fait. Mais en réplique, la défense peut revenir sur des éléments nouveaux que la couronne a soulevés. Donc, des choses qu'ils ne savaient pas en plaidant que la couronne soulève, on peut revenir et rectifier. Encore une fois, Maître Poupard est assez compétent là-dessus, est revenu et a rectifié des choses, a rappelé la présomption d'innocence et a dit que la couronne ne pouvait pas se mettre à interpréter d'une manière à dire que la décision dont je vous parlais, qui a trois éléments clés importants, aurait tant évolué que le principe ne tenait plus. Il disait que ce n'est certainement pas un concours de crédibilité entre la version de la plaignante et de l'accusé parce que il y a la présomption d'innocence qui vient encadrer tout ça. C'est pas seulement à dire bien, c'est qui je crois. Il y a une façon de faire et il a rappelé cette importance-là. Et pour finir, bien, évidemment, la juge au dossier va prendre ça en délibéré, ce qui veut dire qu'elle va réfléchir, elle va sûrement avoir un jugement écrit. Et elle va aller assez rapidement quand même parce qu'on a prévu la date du jugement le 15 décembre. 15 décembre, qui est juste avant Éric Salvaire, l'autre dossier qui est très médiatisé, où est-ce qu'il va avoir une décision, lui, dans son dossier rendu le 18 décembre. Donc, ça bouge de ce côté-là. Avant Noël, on en saura plus sur leur sort. Et je vais vous dire, bon, pour avoir assisté aux deux procès, c'est sûr qu'Éric Salvaille, ça allait bien, il a très bien témoigné. Il y a une victime, présumée victime aussi, qui donnait beaucoup, beaucoup de détails. Ça s'est un peu retourné contre elle au fur et à mesure. Mais très habile, la couronne a réussi à introduire ce qu'on appelle la preuve de mauvaise réputation parce que Éric Salvaire avait fait pour eux, il y avait une défense de bonne réputation. Il avait dit « Je ne suis pas le genre à agresser ». Et là, ça a ouvert une porte. Pour ceux qui ont suivi ça, il y a eu trois déclarations. Dans le fond, c'est de l'audio, comme des témoignages qui ont été déposés parlant des comportements d'Éric Salvaire qui était déplacé. Et ça a fait mal dans ce procès-là. Donc, le 18, on en saura plus à quel point ça a fait mal. S'il est reconnu coupable, on sait déjà, d'après tous les analystes, là, qu'il y aura sûrement un appel dans ce dossier-là sur cet élément-là de preuve de mauvaise réputation, parce qu'on sait qu'habituellement, il va, du côté du Salvaire, ils vont essayer de dire ben c'était pas vraiment une preuve de bonne réputation qu'on a fait, c'est plus une phrase de trop. À suivre pour ça. Ensuite, je reviens à Gilbert Rozon le 15. C'est sûr que ce dossier-là, ça semble très solide du côté de la défense. Ça va être difficile, d'après moi, pour la couronne d'avoir convaincu le tribunal hors de tout doute raisonnable. À suivre dans ces dossiers-là. Autre chose, bon, de l'actualité, évidemment, qu'il faut parler, c'est tout ce qui est de Noël. On a annulé le jour de l'an, c'est fini, il n'y en aura pas. On a permis de se réunir pas plus que 10 personnes, incluant les enfants, il faut le savoir, pendant 4 jours, là, à partir du 24. Et on va en parler même plus tard dans l'émission avec une avocate, maître Otis, en droit familial. Ça peut créer quelques problèmes en lien avec les gardes partagées. Mais on a carrément annulé le jour de l'an. C'est certain qu'on va voir, hein, parce que le gouvernement disait que c'était un contrat moral. C'est quoi un contrat moral? C'est pas tant. Ça veut pas dire qu'ils vont faire tant de répression dans le sens de donner l'exemple, de donner des contraventions pendant Noël. Je pense qu'ils iront pas là. Il va certainement avoir des récalcitrants. On peut pas se cacher de ça. On espère. Ce qu'on demande, c'est la bonne collaboration de la population. Mais il y en a toujours, on le sait, en droit, qui respecteront pas les règles. Mais le contrat moral, c'est ça un peu, c'est dire je vous fais confiance. La conséquence sera peut-être pas des contraventions sur le terrain, mais peut-être une conséquence plus grave, ce qui veut dire qu'ils seront plus sévères avant Noël, après Noël. C'est comme un peu dire bien, on vous donne une permission parce qu'on ne devrait pas. On vous demande de collaborer, mais si vous n'avez pas respecté, ça sera plus sévère par la suite. C'est ce qu'on peut lire. Et là, j'ai hâte de voir s'il y aura certaines contestations, mais peut-être certains vont évoquer même le droit à leur religion qui est brimée, parce qu'on quand même, Noël, c'est une fête religieuse. Donc, on va suivre ça avec attention. Et pour finir, cette semaine, bien, il y avait une autre comparution, bien, pas une comparution, une audience pour la forme dans le dossier de Carl Girouard. Et là, on a demandé officiellement à ce qu'il soit évalué, qu'il y ait une expertise psychiatrique. Je pensais qu'elle avait déjà été faite, mais elle a été faite cette semaine. Ce que ça veut dire, bien, c'est que l'expertise va devoir déterminer est-ce qu'il était, au moment de ses gestes, déconnecté avec la réalité? Est-ce que sa maladie mentale a fait qu'il n'avait plus conscience de ses gestes? On voit ça des fois dans des psychoses avec la schizophrénie, des gens qui se font dire par des voix de tuer des gens. Il faut savoir, c'est pas parce qu'on est fou qu'on est non criminellement responsable, mais c'est le moment où la maladie mentale va faire qu'on est déconnecté avec la réalité. On n'a plus de conscience entre le bien et le mal. C'est ça qui est important. Parce que quelqu'un qui a conscience, malgré qu'il peut faire des gestes qu'on va dire une personne saine d'esprit ne ferait pas ça, mais c'est pas ça la non-responsabilité criminelle. Et là, il y a un expert qui va vraiment se pencher là-dessus. Et sûrement, de l'autre côté, quand on dit un expert, on va dire l'autre expert par la suite de la couronne, qu'il y aura une expertise aussi. Si les deux experts s'entendent de dire qu'il y avait un problème de maladie mentale, bien, peut-être qu'il n'y aura pas de procès, peut-être qu'on va s'entendre pour déterminer qu'il soit confié à la commission des troubles mentaux. Sinon, il y aura procès. On sera là pour vous pour suivre.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici.
Très loin là-bas.
Ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Le jour de l'an qui est annulé cette année, on le sait, on a vu le premier ministre Legault l'annoncer. Si on parle de droit familial, par contre, vous savez que les gardes partagées font que souvent, ben, un a les enfants à Noël, l'autre là, au jour de l'an, et on partage comme ça une année à l'autre. Et là, on se rend compte que ça va causer de nombreux problèmes en droit familial parce que, bon, il y a 4 jours de festivité. Peut-être ça peut aider, ce 4 jours-là. Non, pas, et il y a également du nouveau dans la réforme sur le droit de la famille. On en parle avec Maître Sharon Otis qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, Maître Bernier.
Donc, on va y aller sur le premier point, je pense, qui questionne beaucoup de gens au Québec en ce moment. Qu'est-ce qui va arriver avec les jugements de garde partagée vu que théoriquement, on ne pourra pas fêter le jour de l'an avec sa famille, donc les grands-parents et tout et tout. Est-ce que ça va causer problème, Maître Otis?
J'anticipe beaucoup de demandes de sauvegarde, mais même si ce n'est pas des jugements qui octroient une garde partagée, même si c'est une garde d'autant plus lorsque c'est une garde exclusive et que, par exemple, un parent vit à l'extérieur vraiment loin et qu'il a un droit d'accès vraiment pendant la période des fêtes pour un enfant. Donc, j'anticipe vraiment beaucoup de demandes à cet effet-là là, prochainement parce que, bien évidemment, lorsqu'on est rendu à des jugements, c'est-à-dire que généralement, au préalable, il y a eu tentative à tout le moins de discussion et ça s'est rendu devant les tribunaux et où ça a terminé par convention homologuée par le tribunal. Donc, c'est ce que j'anticipe, moi, à titre de juriste.
Bon, mais je comprends, Maître Otis. On va simuler une consultation client. Maître Otis, je vous appelle. Maître Otis, je voudrais savoir, c'est moi qui avais les enfants ce Noël. Là, mon ancienne conjointe dit ben que c'est elle qui veut parce qu'elle ne pourra pas les avoir au jour de l'an. Qu'est-ce que je fais?
Ben, à ce moment-là, ce que je vous dirais, là, c'est à titre de parent, là. Comme j'ai toujours dit, couple un jour, parent toujours, donc parlez-vous. On est dans une période de pandémie, on est dans une période d'urgence sanitaire, donc parlez-vous au préalable et pour le bénéfice des enfants, toujours dans l'intérêt des enfants, parce que lorsqu'un enfant là, voit des parents se chicaner et ou échanger, parce que les enfants sont des éponges, ils sont pas fous, là. Ils voient tout ça, là, le processus, les discussions, entendent des fois, malheureusement, certaines discussions entre les parents ou voient certains échanges courriels dont ils ne devraient pas être au courant. Mais essayez là, de ne pas vous rendre devant les tribunaux indûment et de faire en sorte qu'il y ait une guerre. Essayez de négocier, de discuter, de voir aussi de quelle façon ça va procéder parce que vous comprenez que là, à ce qu'on a vu du communiqué de presse, c'est que il y a possibilité d'avoir 3 familles, un maximum de 10 personnes là, par journée ou par fête. Là.
Donc, c'est 4 jours, hein?
L'aspect, oui, mais il y a aussi l'aspect des familles recomposées, qu'il ne faut pas oublier. Donc, 2 fratries. Donc, il faut s'assurer que et s'arrimer lorsque c'est un couple recomposé avec des enfants issus de 2 unions distinctes, que les mesures sanitaires soient respectées de part et d'autre pour ne pas, bien évidemment, là, qu'il y ait d'infection là, au niveau des enfants. Donc, ce n'est pas juste de s'entendre et d'essayer de négocier parce que vraiment, les tribunaux, je pense, à ce stade-ci, là, cette semaine, j'étais en DPJ et la juge mentionnait, là, on déborde. Donc, si c'est possible, et à défaut d'entendre, si vous avez passé via un médiateur, tenter de communiquer avec un médiateur, et ou votre avocat qui va faire la courroie de transmission entre vous et la partie adverse pour afin d'éviter peut-être un conflit parce que c'est d'auxiliaire de justice. On doit conserver quand même un détachement par rapport à notre dossier, une objectivité. Donc, on est plus en mesure peut-être de laisser les sentiments de côté et de convenir de droit d'accès. C'est certain là qu'il y aura des parents qui devront faire là, des compromis et mettre de l'eau dans leurs vins parce que cette année, là c'est particulier. Et faut pas oublier une chose, ce n'est pas parce que l'autre parent ne veut pas donner accès à l'enfant cette année qu'il le fait sciemment, c'est qu'on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture pour l'intérêt de nos enfants, des enfants.
Mais concrètement, là, comme solution, c'est assez facile au final, parce qu'on se dit qu'il y a 4 jours, 2 jours chaque. C'est un peu ça, 2 jours de festivité dans chaque famille.
Oui. Ça va bien, mais c'est dans le meilleur des mondes où les parents peuvent vivre à proximité et s'entendre. Il y a des familles, c'est certain que à ce qu'on en comprend, on n'a pas le droit de nécessairement de changer de si on peut dire ça, de zone là, de j'allais dire du district judiciaire, là, mais moi je suis habituée à la cour, donc mais à tout le moins, on n'est pas supposé de faire de déplacements indus et ou tout ça. Donc, il y a aussi cette gestion-là qui devrait être prise en considération dans la décision des parents. Là. Donc, dans le meilleur des mondes, oui, 2 jours chaque, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que la distanciation le permet? Sinon, il y a toujours, malheureusement, c'est sûr que ça ne remplace pas la présence d'un enfant, mais il y a tous les moyens technologiques qui peuvent essayer de pallier. C'est certain que, bon, ça sera pas pareil, mais je pense que pour l'ensemble des gens au Québec, là, et de façon mondiale, là, bref, là, donc, essayer des fois par Zoom ou par FaceTime de donner accès à l'autre parent et de transmettre peut-être, d'acheminer les cadeaux via la poste, s'assurer que l'autre parent ait accès, et puisse donner accès aux cadeaux, etc. D'essayer de faire des compromis parce que sinon, vous comprenez que vous laissez à un tiers, c'est-à-dire un juge. Bien évidemment, les juges ont toutes les compétences pour rendre des décisions, mais vous êtes les maîtres de vos dossiers. Donc, vous êtes mieux de décider par vous-même et de faire des compromis via de vous faire imposer peut-être une décision qui ne sera pas vraiment pas la vôtre et qui ne sera pas à votre avantage et que pour lequel vous allez être malheureux de vivre avec ça. Là.
Ben oui, mais là, un parent qui apprend, là, bon, on a encore du temps, heureusement, parce que on n'est pas à la veille de Noël, puis j'imagine que votre conseil serait de commencer déjà à organiser ce Noël, là, dans le fond, bon, à organiser les journées que vous pourrez avoir vos enfants pour fêter Noël. Prenez-vous d'avance, on vous le dit à Avocat à la barre, parce que là, concrètement, un parent qui se rend compte qu'il ne pourra pas voir ses enfants, les avocats ne peuvent pas s'entendre, le médiateur n'est pas là, mais la personne sait catégoriquement qu'il ne pourra pas les voir, ça prend nécessairement un juge. Là, puis c'est quoi les étapes quand on a besoin d'un juge?
À ce moment-là, ce sera simplement une ordonnance de sauvegarde, c'est-à-dire une mesure d'urgence.
Ça prend combien de temps, ça?
Ça peut se faire très rapidement, OK?
C'est quoi très rapidement pour un avocat?
Une question de journée, c'est-à-dire bien évidemment, selon le délai pour lequel on rencontre le client et le délai où est-ce qu'on notifie ou signifie à la partie adverse là, notre intention de présenter une ordonnance de sauvegarde et aussi selon la disponibilité des tribunaux, puisque vous comprenez là que j'anticipe un débordement du rôle. Je pense que les juges devront se prononcer sur les mesures d'urgence réelles versus peut-être des fois pour une personne, une urgence versus un désir, ce n'est pas la même chose pour la cour. Donc, il y aura, je pense, là...
Mais c'est intéressant, Maître Otis. Est-ce que les tribunaux vont considérer que pas voir ses enfants dans cette fenêtre de 4 jours-là, vu les mesures sanitaires, est-ce que c'est une urgence ou on va dire, c'est pas si grave parce que vous pourrez fêter quand même en famille, en bulle famille, on va l'appeler comme ça, au jour de l'an.
Ça va dépendre.
Est-ce que c'est une urgence de pouvoir voir les grands-parents à Noël?
Bien, regardez, c'est sûr qu'il y a toujours le droit reconnu aux grands-parents, là, bien évidemment, là, mais somme toute, là, pour répondre à votre question générale, là, ça dépend des cas. Si, par exemple, je vous donne un exemple, monsieur n'a pas accès à ses enfants et à l'année, vit à l'extérieur, a déjà anticipé là, les droits d'accès pour Noël, pour le jour de l'an, et que là, l'ordonnance de sauvegarde a pour but de sauvegarder les droits des parties pour lesquels un jugement final ne pourrait remédier. Donc, le jugement final ne pourra pas faire en sorte que vous ayez droit ou accès à votre enfant, ne pourra pas remédier à cette perte-là de droit d'accès ou de contact. Mais somme toute, faut pas banaliser. Il faut mettre en contexte ces droits-là. Est-ce que ça va... Les tribunaux se prononcent toujours dans l'intérêt de l'enfant. Alors, il y a une distinction entre l'intérêt de l'enfant, selon l'article 33, ses besoins de base, santé, sécurité, etc., versus le désir d'un parent qui veut avoir accès à ses enfants. L'intérêt de l'enfant a primauté. Et est-ce qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il y ait ou non une ordonnance de sauvegarde rendue dans un dossier typique? Je ne peux pas me prononcer.
Ah, c'est certain. On ne vous demande pas ça, Maître Otis, mais...
À large, mais ce sera du cas par cas.
Oui, c'est ça. Donc, c'est une bonne question. Est-ce que le tribunal va considérer que l'enfant n'ait pas accès à une famille un peu plus élargie dans les droits d'accès et une urgence, où ils vont avoir un peu la mentalité de dire, ben c'est plate, mais c'est pas si dommageable. L'an prochain, ça sera mieux. Mais je comprends déjà, on annonce beaucoup de solitude, que ce soit les aînés, que ce soit les gens qui ne peuvent pas se voir comme à l'habitude, mais c'est sûr. En tout cas, on peut seulement dire une chose, Maître Otis, je pense qu'on va le dire à deux, là, de concert. Entendez-vous, anticipez, oui. Pensez à vos enfants, ils ont le droit de voir les deux familles, c'est dans leur intérêt. Merci beaucoup, Mme Sharon Otis, de nous avoir éclairé dans ce sujet épineux. Et on n'a pas eu le temps de parler de la réforme du droit familial. On va se garder ça pour une autre fois. C'était très intéressant. Bonne journée. Un
plaisir.
Bye bye.
Bonne à vous. Au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
On voit ce qui se passe cette semaine avec à Longueuil. Les amoureux des animaux, c'est sûr, sont choqués. On entend parler des cerfs dans un parc où est-ce qu'on devrait abattre la moitié. Ben, abattre. Le mot est peut-être, on devrait dire euthanasier la moitié des cerfs. Et ça fait réagir. Il y a un débat. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ce dossier-là. Est-ce qu'il va y avoir des injonctions? Est-ce qu'on va réussir à empêcher ça? C'est sûr que c'est un peu... Ça nous choque un peu de voir ça. Pourquoi on est là à devoir abattre ces cerfs-là? Bien, il y a un débat. Il y en a qui disent bien, c'est les animaux, mais non, les animaux peuvent être dangereux pour les humains. Donc, c'est tout ce débat-là qui est en cours. Est-ce qu'il y a des solutions? Bien, on en parle avec... Colette Étier, conseillère municipale dans le district de Lemoine de Jacques-Cartier, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Maître Bernier.
Merci
de me merci de me donner l'opportunité de vous parler.
Ben oui, mais merci d'être là parce que c'est un bon débat. Il faut le faire. Et là, ce que je comprends, vous êtes dans l'opposition et vous êtes contre qu'on euthanasie ces cerfs-là. Là.
Oui, c'est ça. Vous dites euthanasie, mais en fait, vous aviez raison quand vous avez dit le mot d'emblée abattre, parce que ça va être abattre des cerfs.
On va appeler un chat. Ah, c'est abattre, c'est sûr.
Exactement. Ben, écoutez, oui, effectivement, on parle de les abattre plutôt que des relocaliser, et c'est un peu ça tout l'enjeu. Mm-hmm. Vous savez que le parc Michel Chartrand, les gens, ça fait 20 ans qu'ils cohabitent avec les cerfs du parc. Donc, il y a un certain attachement, puis un attrait surtout. Ouais. Il y a comme, ils sont fiers d'avoir des cerfs dans leur parc et de cohabiter avec. Maintenant, quand ils apprennent du jour au lendemain qu'ils doivent être abattus, c'est un choc, vous l'avez dit. Mm-hmm. Alors, nous, on l'a su il y a à peine une semaine, mais ça se parle depuis 2 ans à l'exécutif et la commission.
C'est pas nouveau.
Pas du tout.
Mais pourquoi, on va commencer par ça, pourquoi là, il faut abattre la moitié des cerfs? C'est quoi la raison principale?
Ben écoutez, c'est un peu comme partout au Québec, il y a une surpopulation. Mm-hmm. Et évidemment, ça peut endommager le parc. Et ça, c'est une préoccupation. Aussi parce que les cerfs, maintenant, mangent les haies des résidents. T'sais, ils envahissent le parc.
Okay.
Et donc, il faut s'assurer de limiter les dégâts.
Parce qu'il y a on entend parler aussi de sur la route. Est-ce qu'il y a un danger réel pour la vie de personnes sur la route ou...
Oui, tout à fait. Okay. Ils traversent des boulevards. Oui, effectivement, il y a eu des accidents. Ça a été répertorié.
Okay.
Mais vous savez, c'est pas juste ça le problème. En fait, c'est la surpopulation. Puis comment, à long terme, on va s'en occuper? À court terme, là, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est d'abattre rapidement 15 cerfs. On l'a su à dernière minute, les citoyens sont choqués. Nous, comme élus, comme opposition, on l'a su aussi à dernière minute, la décision qui avait été prise. Et là, on se retrouve avec des propositions d'organismes, d'experts très intéressantes, mais là, on n'a pas le temps et l'opportunité à ces organismes-là de présenter ça, ou en tout cas, du moins, mm-hmm. de les entendre. Alors là, ils essaient de se faire entendre de différentes façons, des manifestations. Il y a un document très étoffé que j'ai envoyé aux élus et qu'on a déposé comme opposition mardi au Conseil de ville, et pour sensibiliser, en fait, les décideurs.
Mm-hmm.
Mais vous comprenez, on a peu de temps pour réagir, et c'est ça le bas blesse.
Ça, c'est un problème. Et on parle de décideurs. Là, ce que je comprends du dossier, c'est que ça se renvoie à la balle. Parce que d'impliquer, là, il y a le ministère des Forêts et de la Faune. Il y a la ville de Longueuil, évidemment. Je pense qu'il y a un organisme aussi de sauvetage oui. animal rescue qui est là. Et
exactement.
Je pense qu'entre la ville et le ministère, on se renvoie la balle. C'est qui a la responsabilité de ça?
Mais là, justement, au départ, on nous a dit, la ville, écoutez les entrevues cette semaine de la mairesse, c'est une responsabilité du ministère de la Faune.
Mm-hmm.
Et là, bon, il s'est passé beaucoup d'événements et d'actions là depuis mardi, parce que vous savez que là, ça a passé au conseil de ville de mardi pour qu'il y ait 15 cerfs qui soient abattus. Donc là, évidemment, la population, les citoyens réagissent, les organismes réagissent. Ils tentent de faire valoir leur point. Ils ont contacté le ministère de la Faune qui, eux, leur a dit, écoutez, c'est un beau projet que vous offrez, une belle alternative mm-hmm. que vous offrez à la ville. Parce que le coût de l'abattage, c'est 65 000 $ et eux l'offrent gratuitement avec une expertise en plus d'experts, avec des vétérinaires. Alors, il y a tout un plan très intéressant qui a été présenté au ministère et qui dit, écoutez, on approuve ça. Et là, eux se retournent de bord et ils se retournent vers la ville. La ville écrit une lettre hier qui leur dit, ben écoutez, c'est la responsabilité du ministère.
Mm-hmm.
Alors, vous voyez un petit peu la situation pour eux présentement. C'est un peu difficile d'essayer de se retrouver. Comment faire? Comment faire simple quand on peut faire
comprendre? Ben oui, mais tout le monde dit ben c'est pas de ma faute, c'est celle de l'autre. Ministère, ville, je comprends. Puis, mais pourquoi? Parce que j'avais entendu même le zoo, le Miller Zoo, je crois qu'il y a un zoo comme pas comme les autres, qui s'était même offert de prendre les cerfs. Il semble y avoir, comme vous le dites, des solutions. Sais-tu que c'est moins compliqué les abattre que les déplacer? Pourquoi on s'enfarge?
j'ose pas répondre à cette question-là. Mais écoutez, évidemment qu'on se la pose. Quand vous avez quelqu'un qui vous arrive, un organisme, qui vous prépare un document avec des experts à dernière minute pour sensibiliser la ville, dire, écoutez, il y a des options, il y a d'autres options innovatrices, clés en main, vétérinaires, offre de faire la capture des cerfs, offre de faire le transport des cerfs gratuitement, et dit, écoutez, on va répondre aux préoccupations et aux exigences du ministère de la Faune. Ce qui a été, en fait, amené pour prendre une décision comme conseiller, c'est que à la CAPDD, à la commission, écoutez, ils ont offert 4 scénarios. C'est celui de l'abattage qui a été retenu en fonction des, il y avait des exigences de la part du ministère en disant, mais écoutez, si on déplace des cerfs, il peut arriver ici, ça, plusieurs préoccupations. Alors, l'organisme sauvetage Animal Rescue propose des solutions à ces préoccupations-là. Moi, je ne rentrerai pas dans le détail, je ne suis pas une experte. Mais tout ce que je peux dire, c'est ce qui a été dit, est très intéressant. Alors, me paraîtrait, une solution...
Alternative. Mais là, on a balayé ça de la main. Puis je tiens à rappeler à nos auditeurs, on n'est pas dans un débat entre la sécurité des humains et la vie des animaux. On n'est pas là. Dans le fond, ce que vous dites, c'est vraiment c'est qu'il y a d'autres solutions. C'est faisable. Mais là, la ville balaye ça du revers de la main. Là. Parce que c'est accepté l'abattage là, en ce moment.
Exact. Okay. C'est pour ça que les gens réagissent tant et essaient de sensibiliser... Bon. Tant bien que mal. Là, selon moi, la mairesse a manqué une opportunité d'ouvrir la porte à cet organisme-là puis des invités.
Ben oui. Mais comme endroit, puis je dis pas, je tire pas de roche à personne, mais j'espère que c'est pas une question d'orgueil de revenir sur des décisions, parce que ça, c'est un des mâles du monde, là, cet orgueil-là qui fait qu'il faut, tu sais, faut être pragmatique, faut être logique. On s'est trompé, il faut revenir, trouver des solutions concrètes. Mais ça m'amène à un point qui est plus dans mes cordes. Est-ce qu'on parle d'injonction avec ça? Est-ce qu'on parle de demander à un juge de stopper l'abattage là, pour justement pouvoir avoir le temps de regarder les autres solutions?
Quand on regarde ce qui s'écrit, ce qui se dit entre les organismes, les citoyens, ceux qui se sont mobilisés, parce que je le dis, ça a été une grande mobilisation. Les gens se sont vraiment là tendu la main pour sensibiliser la ville, sensibiliser la faune, sensibiliser la population. C'est quand même assez extraordinaire. Mais là, d'aller avec une injonction, ça a été dit. Est-ce ça va être fait? Je le sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai entendu.
Parce qu'à l'opposition, vous ne pouvez pas fonctionner avec les tribunaux. Ça a été voté, accepté. Vous ne pouvez pas aller par la bande, aller bloquer puis mandater un avocat.
Un droit de veto de la mairesse.
OK.
Nous, comme opposition, on a voté contre. Mm-hmm. On a fait connaître les solutions très intéressantes de l'organisme. Et je dirais, il y a des experts qui se sont prononcés. Puis je vous dis, je le redis, le ministère, quand ils ont parlé avec Sauvetage Animal Rescue, ils ont dit c'est un excellent plan de relocalisation. Alors là, moi, je comprends pas. Tout simplement, je ne comprends pas.
Ben moi non plus. Je sais pas c'est quoi les prochaines étapes. Je sais pas si. Parce que la seule chose que je vois en ce moment, si le ministère ne bouge pas, la ville reste sur sa décision. La seule chose pour sauver les animaux, c'est que Sauvetage Animal Rescue prenne une injonction. On pourrait lui faire ça. Moi, on pourrait leur faire ça, cette injonction-là. Parce que je pense que vu
il serait tellement heureux.
Oui, c'est ça. Ben, vu la C'est sûr qu'un juge se dirait, ben c'est, je veux pas donner un cours, mais dans une injonction, un, t'as l'urgence, et là, il y a l'urgence parce que il risque des abattre. T'as le dommage irréparable. Ben, dans ce cas-là, tu peux pas ressusciter un cerf, donc effectivement, un dommage irréparable. Et la balance des inconvénients qu'on va traiter, à savoir, bon, mais qui a le plus de dommages, si au moins, du moins, on retarde ça. C'est sûr que de l'autre côté, ils vont plaider, ils vont dire, ben il y a des vies peut-être humaine en jeu. Plus on attend, plus il y a un risque d'accident, je ne sais pas.
Mais écoutez, mais... non, c'était pas basé sur les accidents. C'était basé sur le fait qu'il y a des cerfs en trop et qu'il faut faut faire quelque chose. Mais là, on est là, il n'y a pas mort d'homme, là.
Mm-hmm.
Écoutez, on pourrait reporter le temps minimalement, comme j'ai dit au conseil, minimalement de laisser ces gens-là pouvoir s'exprimer tous ensemble. Bon. Alors là, on parle d'un côté à la Fonde, on parle de l'autre côté à la Ville, mais la Ville n'a pas envie de parler, mais envoyer une lettre. Est-ce qu'on pourrait asseoir ce monde-là tous ensemble, laisser la chance de discuter tout le monde ensemble?
OK. Puis,
de cette solution-là.
Ben non, mais c'est ça qui est dommageant. Puis là, ce que je comprends, c'est que c'est le... Mes recherchistes me disent que c'est lundi, là, le
Oui, le deadline, c'est lundi. Oh. Tout à fait.
OK, ça ne laisse pas grand temps. En tout cas...
Non, c'est pour ça qu'on a besoin de vous.
Ouais, puis le week-end, c'est plus dur. Mais c'est assez particulier. J'espère qu'ils pourraient... message envoyé. Ils devraient revenir sur leur décision puis vérifier que ça se fait. Tu sais, ce qu'on veut, c'est pas bloquer pour bloquer, mais que ça soit fait dans les règles de l'art. Puis s'il y a d'autres solutions, bien évidemment, on va toujours les favoriser. Là.
Oui, bien, tout à fait. Vous l'avez très bien résumé. Surtout que là, maintenant, on disait que c'était la Fonde qui disait, bon, il faut respecter un protocole. Et là, ils sont en accord avec le protocole de sauvetage animal rescue.
En tout cas, il semble y avoir un problème. J'espère que les autorités en question vont se raviser lundi pour faire la bonne chose. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Mme Etier, dans ce dossier-là.
Ben,
puis alors, je sais pas, là, on va voir ce qui se passe lundi. Merci.
Excellent.
Bonne journée, bye-bye.
Bonne journée, merci.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Est-ce que notre français est menacé? On en a parlé beaucoup cette semaine à Montréal. Bon, la loi 101 qui revient à l'actualité. Alors, on a vu une députée faire un peu une bourde disant qu'il n'y avait peut-être pas de problème avec ça. C'est sûr que quand on va à Montréal, ben moi j'aime ça, je pratique mon anglais, mais on se fait souvent répondre en anglais. Et est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qui se passe? On en parle avec un docteur en droit, pas n'importe qui, Maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour!
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, content de t'avoir pour ce sujet épineux. est-ce qu'il y a un problème avec le français?
Ben,
faut pas que tu répondes non, sinon on va faire une controverse.
Sorry, I don't speak French. ben, regarde, écoute, moi c'est sûr que je pense qu'on, comme Canadien qui vit au Québec, comme Québécois francophone, on peut pas être insensible à notre réalité là, qui est celle de la géopolitique. Là.
Mm-hmm.
Ça, même si on est indépendant demain matin, ça changerait pas tant de choses que ça, j'ai l'impression. En tout cas, ça change rien d'un point de vue géopolitique, ça c'est sûr. L'influence des Netflix, l'influence des médias sociaux, notamment chez les jeunes, ça c'est drôlement inquiétant. Les 18 à 34 ans répondent dans une proportion très, très appréciable que bon, le fait de se faire servir en français, le fait de se faire accueillir en français, c'est pas plus grave que ça. Mm. Moi, je pense que le gros problème est là. Ceci dit, je suis content que le reportage du Journal de Montréal ait secoué le pommier, là, si je peux dire.
Ouais.
Mais reste que si, puis j'apporte une réserve là-dessus, les rapports de l'OQLF, c'est certain qu'ils ont des échantillons beaucoup plus importants, c'est plus scientifique par la force des choses. Et je pense qu'il y a quand même des trucs là-dedans qui méritent considération. Là. En d'autres termes, oui, on doit être vigilant. On peut même être alarmiste en quelque sorte, mm-hmm. mais il faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des chiffres là qui nous démontrent que la situation n'est pas si mal que ça, en tout cas du moins pas partout.
OK, je comprends. Et là, c'est sûr que depuis longtemps, on protège le français. On a vu à l'époque la loi 101. Tout le monde se rappelle des stops. Là, c'était marqué stop, maintenant c'est marqué arrêt. Puis là, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie. Là, les commerçants, déjà, n'ont plein leur casse, puisqu'on parlait beaucoup aussi dans l'actualité d'affichage là, tu sais, bilingue. Mais c'est peut-être pas le temps en ce moment, Frédéric, d'aller envoyer des lettres aux commerçants disant, ben écoutez, votre nom, il est pas assez bilingue, ou je sais pas, peut-être qu'on va... Je pense pas qu'ils vont envoyer ça à des restaurateurs en ce moment.
D'aller les achaler, ouais, surtout qu'ils sont fermés pour la plupart... C'est certain que ça peut avoir l'air de comment je dirais, d'un acharnement ou d'un anachronisme, là, dans le sens où vous nous reviendrez quand ça sera le bon temps. Là. Mais en même temps, la loi est là, est plutôt claire. Je comprends la pandémie, mais en même temps, est-ce qu'on irait de l'existence et l'application de d'autres... Mm-hmm. Ouais, tu sais, je pense pas.
C'est la planète arrête pas non plus de tourner.
Ouais. C'est un peu ça. Je pense qu'on est capable de marcher puis marcher de la gomme en même temps. Mais tu vois, sur la question de l'affichage public, il y a quelque chose d'intéressant. On a l'impression que les commerces se conforment de moins en moins. Alors que tu vois, je veux pas assommer tes auditeurs et auditrices avec des chiffres, mais en 2010, il y avait 72% de taux de conformité d'affichage sur l'île de Montréal, donc par les commerces.
Okay.
Donc seulement 72% respectaient la loi comme telle. Et là, je parle juste de l'île de Montréal. Mmh. À l'extérieur, évidemment, c'est beaucoup plus important que ça. Donc 72% en 2010 et 78% en 2017, qui sont les derniers chiffres de l'OQLF dans ce cas précis.
C'est quand même une bonne note.
Ouais, ben il y a une augmentation du taux de conformité des commerces sur l'île. Donc, je veux dire, on va quand même le prendre pour une bonne nouvelle. Là, on pourrait dire évidemment, ouais, mais 78, c'est pas assez. Puis ça, j'en conviens, ça devrait être plus que ça, on s'entend. Mais reste qu'il y a quand même, contrairement à ce qu'on pense et à l'impression qu'on a, une augmentation là, du taux en question qui est nécessairement une bonne chose, là, à mon avis.
Mm-hmm. Ouais, ben c'est certain que c'est. On aurait pensé que c'était pire parce que si je pense que comme je disais depuis tous les temps, faut protéger le français, mais pas aller dans l'excès. Mais pour ce qui est de la langue parlée, là, bon, dans les commerces, on revient là-dessus. Je veux pas te mettre dans l'eau chaude non plus, mais je parle aux constitutionnalistes. Là. Je vais dire que certaines personnes disent que l'immigration peut être un problème dans le sens que, si je me trompe pas, il y a de l'immigration qui est contrôlée par le Québec. Donc, quelqu'un qui migre par le Québec va avoir une certaine obligation d'apprendre la langue française. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui migre par le Canada anglais n'aurait pas cette obligation-là. Il vient de s'installer au Québec et là, c'est peut-être là qu'on l'échapperait sur demander aux gens d'apprendre la langue locale. Est-ce que c'est vrai, ça?
Bien, il y a plusieurs volets à ta question. Là. Dans un premier temps, puis il y a des questions très pertinentes par ailleurs, parce que moi, ça, je pense que c'est un des volets de l'enjeu qu'on ignore. Dans les sondages qu'on fait, souvent ceux qui concluent que le français est en recul à Montréal, bien, c'est parce qu'ils vont chercher une donnée qui est, à mon sens, problématique, c'est-à-dire quelle est votre langue maternelle et quelle est la langue parlée à la maison.
Mm-hmm.
Or, c'est évident que si tu augmentes ton immigration, ben les chances d'avoir une langue maternelle qui soit le français est de plus en plus faible. À plus forte raison, la langue parlée à la maison. Mais là, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, personnellement, que la personne parle arabe à la maison,
ben oui.
Qu'elle parle créole, moi, je m'en fous. Vraiment,
c'est ça.
Mais à vrai dire, ça m'intéresse pas du tout. Mais est-ce que tu es capable de parler français sur les lieux de travail? Est-ce que tu es capable de parler français à l'école et ainsi de suite? Et là, tu vois, justement, par rapport à ces chiffres-là, la langue maternelle qui est le français chez les Québécois est à peu près la même chose. 2011, c'est 78%. 2016, c'est 77%. La langue parlée à la maison, 2011, 80%. 2016, 79%. Donc, on voit qu'on est à peu près la même chose. On est pratiquement dans la marge d'erreur. Et là, je vais reprendre le dernier volet de ta question, mm-hmm. qui, lui, est franchement pertinent. Il faut pas oublier que les enfants d'immigrants doivent aller à l'école en français. C'est une des prescriptions, tu sais, de la loi 101. C'est venu changer complètement le paysage linguistique au Québec et okay. pour le mieux. Tu vois, au début des années 70, donc avant la loi 101, il y avait 14% des allophones qui allaient à l'école en français. Là, on est rendu à quelque chose comme 84%, si ma mémoire est bonne. Et sur la question donc que tu soulevais en rapport à ça, c'est que effectivement, si l'immigrant débarque ici au Québec tout de suite, ses enfants doivent aller à l'école en français, ça fait pas de doute.
Okay.
Si par contre ils vont, pareil, je sais pas moi, ils déménagent, disons, ils partent de peu importe où, ça n'a pas d'importance, de l'Allemagne, ils vont vivre en Ontario et les enfants en question vont à l'école en Ontario. Là, en transférant éventuellement au Québec, effectivement, s'ils ont déjà étudié en anglais dans une autre province canadienne, ils peuvent se prévaloir de ce droit-là.
Okay.
J'avais fait des études là-dessus, par contre, et je te dirais que c'est très, très minimaliste. On parle entre 80 et 100 étudiants, donc 100 élèves par année, qui se prévalent de cette clause-là, qui est ce qu'on appelle la clause Canada, là, mm-hmm. qui est prévue à l'article 23 de la Charte canadienne. On pourrait critiquer ça, on peut évidemment être en désaccord, mais reste que c'est pas ça qui a un impact majeur là au Québec. Là. Si on okay. parle de 80-100 étudiants par année, on s'entend que c'est pas là que ça se joue du tout. Où ça se joue, par contre, c'est que quand tu débarques au Québec, tu t'en vas à l'école en français, puis ça chialait au début, mais on a créé des enfants de la loi 101. Là, mm-hmm. on est rendu à quoi? Une génération,
ouais.
et presque deux générations. Et on les voit, les impacts, tu te promènes un peu partout. Moi, j'enseigne à l'Université de Montréal, à la Fac de droit, des enfants d'immigrants, là, il y en a plein, là, il doit y avoir, je sais pas, 10, 15, 20% facilement à l'œil comme ça.
Mm-hmm.
Or, ceux-ci s'adressent à moi et à leurs collègues dans un français impeccable.
Ouais.
Je connais des étudiants là qui sont, écoute, je te donne un exemple, là, une fille que je connais qui est partie de la Moldavie, là, ça parle pas français comme ça, en Moldavie, là, ça parle roumain et russe, elle est partie de là à 9 ans. Sa mère était neurologue là-bas, elle est débarquée ici, elle n'est pas capable de se trouver job de neurologue, merci au Collège des médecins, donc elle devient infirmière auxiliaire, et sa fille qui ne parle pas un mot de français en débarquant ici à 9 ans, ben à l'âge de 14, 15, 16 ans, c'est elle qui est devenue tutrice pour aider des enfants d'immigrants
wow.
et autres Québécois à apprendre le français.
Wow! C'est un bon exemple. Mais ça veut dire que, Frédéric, le problème vient pas de là. Il nous reste environ 2 minutes, mais je voudrais t'entendre. Est-ce que, parce que souvent on dit dans les commerces, comme j'ai dit, moi,
ouais.
à Montréal, je me fais répondre en anglais, puis souvent, je vais avoir tendance à dire, bon, bonne opportunité de pratiquer mon anglais. Mais je suis pas sûr que c'est la bonne chose à faire, mais est-ce que ça peut venir de la paresse aussi de dire, ben, est-ce qu'on a le devoir d'exiger d'être répondu en français?
Ben, tu vois, il y a le dernier chiffre pour aujourd'hui, c'est 96% des commerces qui te servent en français. C'est certain que si tu fais une étude sur le campus McGill ou dans le West Island, ben c'est évidemment, ouais. c'est évident que on s'entend bien, là, les chances augmentent. Moi, à titre personnel, quand je me fais l'autre affaire qui change la donne un peu, c'est on se fait servir on se fait accueillir avec le bonjour hi. Ça, c'est nouveau, ça. Ça fait peut-être 5-7 ans qu'on a ça.
Okay.
La question, moi, le bonjour hi m'achale pas tant que ça, mais est-ce que tu es capable de me servir en français par la suite?
Mm.
Et si t'es pas capable de me servir en français par la suite, ben je vais pas être trop bête, là, j'essaie d'être gentil de manière naturelle, mais je vais demander à quelqu'un d'autre de me servir en français. Puis s'il y a personne, ben je fous le camp, puis là tu viens de perdre, je sais pas moi, 25, 50 ou 200 piastres.
Ouais.
Puis je pense qu'il y a une question de culture aussi qui doit se développer. Ça veut pas dire d'être bête, mais ça veut dire, écoute, c'est, on est une nation francophone minoritaire dans un océan anglo. Tu sais, moi, je suis bilingue, là, pas si je viens de région, mais je me débrouille en anglais. Donc, souvent, j'avais pas le réflexe de me faire servir en français parce que ça me plaisait un peu comme toi de pratiquer mon anglais. Mais je pense qu'on a quand même ce devoir-là de faire savoir clair et net, ben ici, il faut parler français. Puis souvent, je termine là-dessus, ces personnes-là dans les boutiques, ce sont des jeunes, tu remarqueras, là, de 18, 22 ans. Souvent, c'est des étudiants à McGill ou à Concordia qui viennent de débarquer ici, qui n'ont pas encore eu la chance d'apprendre le français. Moi, j'essaie d'être quand même assez relax.
Ouais, c'est ça.
Là, parce que je veux les intégrer, je veux qu'ils l'apprennent, mais en même temps, je veux qu'ils comprennent que justement, ils doivent l'apprendre. Ça fait partie un peu du contrat social au Québec.
Ben, c'est bien dit, puis je suis de ceux aussi qui disent qu'il ne faut pas devenir paranoïaque, mais quand même, il faut protéger notre français. Si on laisse aller, je ne suis pas sûr que ça va donner des bons résultats. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, toujours clair. On se reparle la semaine prochaine pour un autre sujet épineux. Bye-bye.
Grand plaisir, Maître Bernier. Bon week-end.
Cube Radio.